Je viens de lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, qui était ma lecture de ce jour. J'ai lu un passage qui m'a interpellée et me donne envie de faire cette méditation. Je parle en moi-même, en fait, mais comme le Seigneur m'a dit, partage ton pain avec ceux qui ont faim. Mes méditations sont généralement, je les enregistre chaque fois que je peux, de façon à ce que ça puisse aussi être partagé pour pouvoir servir aussi de base de méditation à d'autres ou édifier certains. Donc, en lisant le chapitre 15 de l'Acte des Apôtres, j'ai lu à partir de versets 36 à 41. Donc nous allons lire la parole de Dieu pour nous récamper. Acte 15, versets 36 à 41. Je vais camper le décor. Il s'agit d'une mission de Paul, l'apôtre Paul et Barnabas à Antioche. Ils sont revenus à Antioche pour ramener aux frères de l'assemblée d'Antioche la lettre qu'avaient écrite les anciens de Jérusalem, Pierre, Jacques et les autres apôtres, au sujet de ce que devaient manger ou pas manger les croyants. Et surtout, par rapport au problème de la circoncision, parce qu'il s'était levé des voix au sein de l'assemblée d'Antioche par des croyants qui venaient de Jérusalem, mais qui étaient encore restés dans la loi. Et il disait que ceux qui ont cru, les païens qui avaient cru en Jésus-Christ, devaient se soumettre à la loi de Moïse, devaient se soumettre à la loi de la circoncision et à la loi des choses interdites. Ça a fait large débat, au point où Paul et Barnabas, qui étaient en charge de ces contrées parmi lesquelles Antioche, ont dû amener avec eux certains frères à Jérusalem afin que ce problème soit vraiment débattu auprès des anciens pour pouvoir apporter la clarté dans l'Église naissante. Ainsi, le problème a été largement débattu, largement commenté, où Pierre a rappelé aux uns et aux autres la mission que Dieu lui avait confiée lorsqu'il l'avait levé pour aller commencer la conversion des païens dans la maison de Corneille, vous vous souvenez. Et Jacques, qui est reconnu comme quelqu'un qui était très à cheval par rapport à la loi, au début même des Actes des Apôtres, on voit qu'il a été très très ferme aussi, c'est ce qu'il pensait aussi avant. Mais Pierre et Paul, à force par inspiration de l'esprit et par la parole, l'ont amené à comprendre que le Seigneur avait vraiment, que Dieu avait vraiment ouvert la voie et que le Seigneur Jésus avait ouvert la voie pour que les païens soient des convertis à la foi en Christ, au même titre que parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc, Jacques leur a dit, écoutez, mes frères, nous n'allons pas imposer aux autres des jougs que nous-mêmes, Seigneur Jésus est venu nous délivrer de ces jougs. Nous n'allons pas les imposer à nos frères païens qui ont cru en Jésus-Christ aujourd'hui. Mais seulement, nous allons leur donner quelques directives qui me semblent importantes. Et cette lettre a été écrite et dans laquelle les principales choses qui avaient été retenues, c'est que ils ne devaient pas, ils devaient éviter de manger des viandes étouffée, de manger des viandes étouffées, de manger le sang des animaux. Et de se éviter aussi de se verser dans la débauche. Il faudrait s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Choses contre lesquelles vous vous garderez bien de vous tenir en garde, leur disait Jacques. Donc cette lettre a été rapportée auprès des croyants d'Antioche, et Paul et Barnabas se sont chargés donc de les entretenir à ce sujet. Jusque là c'est bon. Donc nous nous retrouvons maintenant au verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut aussi vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Et Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Parole du Seigneur. Ma méditation ce matin, c'est un peu vraiment parce que quelque chose m'a tenu. Voilà une situation. Voilà deux maîtres d'œuvre, deux leaders, Paul et Barnabas. C'est pas n'importe lesquels. Souvenez-vous que c'est vraiment au sein d'une église, pendant des temps de prière, de jeûne et tout, qu'il a été dit aux anciens de l'église que Paul et Barnabas soient mis à part pour l'œuvre que le Seigneur avait préparée pour eux. Et à partir de ce moment-là, l'église les a laissés libres, aller pour accomplir dans les contrées la mission que le Seigneur avait préparée pour eux. Amen. Donc, la combinaison Paul et Barnabas, c'est une combinaison, moi je peux dire, divine. Amen. Gloire à Dieu. Mais voilà qu'une situation se présente. Et au point de les diviser. Une question de point de vue, une question de sentiment, moi je dirais personnel. Mais il y a une chose, les deux sont conduits par le Saint-Esprit, on est d'accord. Analysons un peu ça, moi j'ai juste un commentaire à faire dans tout ça. Moi vraiment je médite à haute voix et demande au Saint-Esprit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, beaucoup d'églises ou beaucoup d'assemblées ou beaucoup de personnes qui sont se mettre ensemble pour faire des choses, ou sont, qui sont conduits par le Saint-Esprit pour se mettre ensemble pour faire quelque, pour faire une œuvre de Dieu, se retrouvent devant, confrontés à des situations qui les divisent. Et ce cas que nous étudions intervient beaucoup. C'est aussi beaucoup de frères et de sœurs aussi en Christ qui sont assoiffés de faire l'œuvre de Dieu, se retrouvent dans des situations où ils sont l'objet justement des dissensions, ou qu'ils sont sujette à des critiques. Donc, ça m'intéresse, moi, de réfléchir un peu sur ce cas-là et de me poser des questions auxquelles j'espère, j'attends que le Saint-Esprit m'éclaire. Amen. Paul pense, voilà, Paul propose, il serait peut-être temps que nous repartions là où nous avons planté des églises, parce que ce sont des apôtres, là où nous avons planté des églises, là où nous avons sémé de la bonne graine, il faut que nous repartions pour voir dans quelles conditions ils grandissent, afin de pouvoir apporter quelques corrections éventuellement, ou apporter quelques dons supplémentaires à ces églises-là. Donc, revenons dessus, ce qui est fort louable. Paul et Barnabas concluent cela, et maintenant, ils s'apprêtent à partir pour faire cette œuvre, et ils doivent amener des jeunes avec eux. Ils doivent amener des disciples nouvellement aguerris pour aller avec eux. Parce que l'équipe missionnaire a besoin d'être fortifiée, a besoin d'être agrandie à chaque moment, solidifiée aussi. Donc, ils se proposent d'amener des jeunes aguerris de l'assemblée. Barnabas propose qu'on amène avec eux Marc. Mais voilà le problème. Paul se retourne et Paul dit, ah non, pas Marc. Parce que Marc était avec nous au début. Et après Pamphylie, il nous a quittés, il a fait chemin seul. Donc moi je ne veux pas le reprendre avec nous, moi je ne le prends pas avec nous, il ne part pas avec nous. Barnabas lui dit, mais attends, je ne vois pas où est le problème. Nous le voyons là, parce qu'il faut que nous remarquions qu'ils sont à Antioche. Donc s'ils se sont séparés, si Marc s'est séparé de Paul et Barnabas à partir de la Pamphylie, a fait un bout de chemin tout seul, il est revenu les trouver à Antioche. Puisqu'il parle de Marc ainsi à Antioche. Donc, Marc était revenu et refaisait partie de l'église d'Antioche. Et un membre actif, puisque s'il est apparu à Barnabas qu'il fallait qu'il le prenne, ça veut dire que Marc n'était pas juste un assis dans l'assemblée. Marc était un actif. Et les œuvres de Marc se voyaient. La foi de Marc se voyait, le zèle de Marc était visible. Donc, quand Barnabas dit, mais attends, donc voilà deux points de vue, moi je ne trouve aucun problème à ce que Marc nous accompagne. Marc, il est aguerri, Marc sera pour nous un secours, une bonne aide. Voilà la pensée de Barnabas. Mais Paul dit non, sans doute, moi je ne mets pas en doute ses capacités, mais le fait qu'il nous a quittés à partir de Pamphylie, moi je ne veux pas l'amener avec moi. Au point où il ne trouve pas d'accord, je me suis dit, mais attends, ne pouviez-vous pas amener d'un côté Marc et de l'autre côté Silas? Vous n'êtes pas trop en étant quatre. Amen. Il y a les uns et les autres, ils sont animés vraiment d'un désir de servir le Seigneur. Et nous tous, nous sommes animés d'un désir de servir le Seigneur. La Bible ne revient pas sur le fait pour lequel, ne nous argumente pas les raisons pour lesquelles Marc les a quittés à Pamphylie. Mais Marc ne les a pas quittés à Pamphylie pour partir dans le monde ou pour s'égarer. Marc a sans doute ressenti en lui le désir soit de rester à Pamphylie et de les laisser continuer sur un autre chemin et de prendre un autre chemin. Pourquoi ne pas penser que, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'animé par le même Saint-Esprit, Marc a reçu aussi profondément en lui une instruction qui l'amenait à passer, à suivre un autre parcours que celui de Paul et de Barnabas. Dieu nous enrichit de ses spécificités. Dieu nous fait différents. Quel intérêt a-t-il? Et a-t-il à être complètement identique pour faire quelque chose? Nous pouvons tous être des enfants de Dieu. Nous pouvons tous être des fervents croyants en Jésus-Christ. Nous pouvons tous être des appelés. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons faire les choses de la même façon. Ce n'est pas pour autant que nous devons être identiques. Nous avons des spécificités. Dieu a envie de nous utiliser dans des axes différents. Son plan est large, son plan est grand. Nous nous souvenons quand Dieu a parlé à Philippe. Et l'a dérouté de là où il pensait aller pour l'envoyer à la rencontre de l'eunuque d'Éthiopie. Il était seul. Il est parti seul. Avait-il demandé l'autorisation de quelqu'un? Avait-il écrit à Jérusalem pour demander à Pierre, Jacques, écoute, moi je viens de recevoir une instruction qui m'envoie à la croisée? Non. Philippe est un enfant de Dieu également. Philippe était aussi dans la marche de cet appel de Jésus-Christ. De même que Marc. Moi, je suppose que Marc est parti parce que le Seigneur devait l'enrichir aussi d'une certaine spécificité. Peut-être qu'il est passé par d'autres contrées. Peut-être, sans doute même qu'il a converti d'autres personnes sur le chemin. Sans doute qu'on n'en parle pas, mais il y a eu des coins qui ont eu des églises, des assemblées qui ont été initiées par Marc dans son parcours. Et il a fait ce petit détour. Sans doute parce que le Seigneur voulait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe de personnes quelque part sur ce chemin de détour qu'il leur a donné qui devait recevoir la parole de Dieu, qui devait être converti. Et ça s'est retourné et il les a retrouvés à Antioche. Dans le monde, on dit tout chemin mène à Rome. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais moi je sais que pour atteindre une certaine destination, il y a plusieurs chemins que l'on peut prendre. Surtout si nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le chemin qui nous amène à prendre, il y a toujours une raison pour ça. Et une bonne raison. Nous sommes en Christ tous, mais nous avons nos spécificités. Il y en a qui peuvent être animés d'un désir seulement de suivre au sein d'une église. D'autres qui, à un moment, même dans la même église, sont appelés à aller commencer quelque chose de différent quelque part. On peut être dans une grande assemblée. Et si ce n'est pas à ça que l'assemblée prépare les gens, c'est qu'il y a un problème quelque part. Moi, je pense que même quand on va dans une assemblée, on commence dans une assemblée, on grandit dans une assemblée. À un moment donné, on peut être saisi des tripes d'aller mener ministère sous une autre forme, peut-être pas une église. Mais peut-être un site internet, peut-être une association, peut-être de toutes les formes, peut-être une église de maison, peut-être un groupe de prière, de louange, de communication. Amen. Et commencer autre chose comme ça, parce que Dieu veut cette spécificité. Et de faire les choses peut-être différentes. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là n'est plus appelée à l'œuvre de Christ? Je ne pense pas. Au jour d'aujourd'hui, nous vivons beaucoup de choses comme ça. Mais nous oublions que le même Saint-Esprit nous conduit et nous guide. Et que nous avons cette même soif d'entrer dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de mener des bons combats. Et d'accomplir les œuvres que l'Éternel a préparées pour chacun de nous, qu'il les accomplisse. Ce qui est important, moi j'ai envie même de dire, il ne faut pas oublier souvent. Et je m'adresse, je parle ainsi par rapport aux grosses églises, c'est-à-dire les églises qui ont des trop gros membres. N'oublions pas une chose, c'est que les dirigeants d'église suivent une vision. La vision qu'ils ont reçue, eux. dans leur spécificité. C'est cette vision qu'ils suivent. Mais il n'est pas dit que tous les 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres, 5000 membres qui fréquentent cette assemblée sont appelés à la même spécificité. Ils sont peut-être, pour ceux qui se sentent à l'aise, peut-être appelés dans la même vision, mais pas nécessairement dans la même spécificité. Ils peuvent être à un moment donné, s'ils sont à l'écoute du Saint-Esprit, être appelés à commencer de par leur, en tant que tête de file eux-mêmes, une œuvre, une activité, un ouvrage. Ne vous sentez pas mal. C'est normal, c'est clair, c'est normal. Moi, j'ai remarqué quelque chose dans la Bible. C'est que le Seigneur, Dieu même, pour commencer, parce que revenons sur la tour de Babel. Quand Dieu a fait écrouler la tour de Babel, certains peuvent lire et dire que, oh, oh, comment Dieu peut faire comme ça, tomber un machin. On peut même croire dans les peu de propos qui ont été donnés que oh, notre Dieu là est jaloux, hein. Il est descendu et tout, le machin, etc. Il a détruit la troupe parce que machin. Qu'est-ce que Dieu a à nous empêcher à être unis et machin? Ah! Dieu ne nous a pas fait pour ça. Dieu a fait toute la terre pour qu'on l'occupe. N'oublions pas que Babylone est haute. C'est un peu juste après Noé, comme ça et tout, commence. Donc, vous commencez à être nombreux. Et au lieu de vous disperser sur la terre et envahir cette terre que j'ai bâtie pour vous, vous voulez absolument vous concentrer à un même endroit. Et non seulement vous concentrer à un même endroit, consolider vos pouvoirs que je vous ai donnés pour venir monter dans le ciel pour me défier ou pour être avec moi. Si j'avais voulu que vous soyez avec moi directement, je n'aurais pas créé la terre. Je vous aurais créé directement dans les cieux. Mais dans les cieux, il y a déjà ce qui doit être dans les cieux. Il y a le monde angélique. Et il y a le monde du trône. Tout ça, c'est pour les cieux. Si je voulais me contenter de ça, j'aurais laissé comme ça. Mais je voulais créer autre chose. J'ai un autre plan. C'est pour ça que je vous ai fait différent. Et je vous ai donné un autre area, un autre terreau que vous devez occuper. Dont les plans que nourrissaient Nemrod et les Babyloniens ne convenait pas au dessein de Dieu. Et quand le Seigneur regarde, il dit, ah bon, c'est parce que vous parlez le même langage. Donc vous pouvez comploter quand vous parlez le même langage. Ok. Il faut donc que j'ôte cette possibilité de communication directe entre vous. Ainsi, chacun ira de son côté et commencera à grandir et donnera une autre expansion. Et d'expansion en expansion, nous occuperons la terre. Alléluia. Donc, Jésus-Christ aussi, dans la foi, il a fallu que l'église de Jérusalem soit détruite pour que les apôtres puissent aller dans toutes les extrémités, que chacun puisse prendre une direction différente pour aller accomplir l'œuvre pour laquelle il avait été formé pendant 3 ans, pour laquelle il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était pas pour rester à Jérusalem, mais il fallait qu'on détruise le lieu où ils se rassemblent afin que chacun aille. Et quand Jésus-Christ est venu lui-même, il prêchait. Il a vu ce qui se passait dans le temple. Et lui-même, il a dit, je détruirai ce temple. Je détruirai ce temple. Et je bâtirai un temple, là où on ne se rassemble pas au même endroit. Là où on va de par le monde, porter la bonne nouvelle. Amen. C'est pareil même pour le peuple juif bien avant. Le temple a été détruit combien de fois? Le temple a été détruit combien de fois? Les lieux de rassemblement sont détruits combien de fois? Parce que le but du Père n'est pas que vous vous rassemblez tous à un endroit comme machin. Non. C'est que vous pouvez vous rassembler un peu pour communier, célébrer, peut-être pour vous nourrir, mais après chacun est appelé à aller produire quelque chose à l'extérieur. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit de Dieu leur dit au travers de ma bouche. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose qu'à un moment donné, quelqu'un ressente en lui le temps de faire une expérience, un enrichissement à côté, pour s'élargir, pour se... Amen. Mais ce que nous devons remarquer ici, c'est que Marc était revenu au milieu de l'assemblée de ses frères, enrichi de ses expériences, de ce détour. Il était revenu et rempli de ça, il était encore actif au sein de l'assemblée. Nous ne pouvons pas dire que Barnabas était aveugle. Barnabas a bien vu que le Marc, qui les avait quittés en Pamphylie, était non seulement, s'il n'était pas le même, il était meilleur. Parce que si de tous ceux qui étaient à Antioche, il a choisi Marc, c'est parce que Marc se distinguait du milieu de l'assemblée. Marc se distinguait. Il avait suffisamment jugé Marc, regardé Marc, observé Marc, pour penser que Marc pourrait être un bon équipier pour leur mission. Voilà la pensée de Barnabas. Avait-il tort? J'en sais rien. Mais toujours est-il que Paul est resté cramponné à sa pensée. Il nous a quittés en Pamphylie. Il ne mérite pas de venir avec nous dans cette œuvre. Il a pris Silas. Silas était certainement bon également. Et ils se sont séparés. Mais moi, j'ai envie de dire une chose. Enfin, Paul avait-il tort ou pas? J'en sais rien. Il avait peut-être raison, je n'en sais rien, c'est pas le propos de cette méditation. Toujours est-il que, voilà Marc dont on parle. Il s'agit du même Marc qui a écrit tout un évangile. Il s'agit du même Marc dont le fruit du travail, le fruit de sa marche, a permis d'écrire un évangile. Un évangile qui a été sélectionné pour faire partie des quatre évangiles qui racontent l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez. Cela me conforte dans le fait que les qualités et les capacités de Marc, la foi, le zèle de Marc et la mission divine qui a été confiée aussi à Marc par l'Éternel lui-même étaient valables. Et que son détour et que ses différentes traversées ont nourri Marc au point où il a pu écrire un évangile complet de la vie de Jésus-Christ qu'il n'avait pas connu. Moi, j'ai souvenir, en lisant le livre de Luc, qu'il témoigne en disant, moi, le Théophile, il a parcouru, enquêté, cherché. Donc, Luc aussi, c'est un enfant de l'église qui n'est pas resté sur place, qui n'est pas seulement resté là à suivre les anciens et les ténors, qui a dû faire un parcours seul d'abord, qui est parti lui-même à la quête des informations. Et quand il est revenu rejoindre l'église, ça ne l'a pas empêché d'être celui qui était le plus proche de Paul à la fin de sa vie. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, franchement, j'ai envie d'encourager quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui est vraiment zélé dans la foi. Quelqu'un qui croit foncement en lui que Dieu a déposé quelque chose. Quelqu'un qui pense que l'appel que Jésus-Christ a lancé en disant « Allez !» Et je le précise toujours, il a dit « Allez !» Il n'a pas dit quelle catégorie de personnes doivent aller. Il n'a ni dit que c'était les hommes ou les femmes. Il n'a ni dit que c'était des des conducteurs d'assemblée seulement qui doivent aller. Il n'a pas dit que c'était pas les enfants et que c'était les chefs de famille. Il n'a pas fait de remarques. Il a dit allez, s'adressant à ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont cru en lui. Quand il a dit ceux qui croient en moi, ceux qui ont cru en moi auront le pouvoir en mon nom de faire des choses. Ceux qui ont cru en lui, il n'y a pas de catégorie dans le ceux qui ont cru en lui. Quelle que soit ta position, enfant, grand, grandiose dans le monde, positionné, tête de file d'assemblée, diacre, nominé, titré, dans ton recoin, renvoyé, divorcé, marié, célibataire, jeune fille, jeune homme, tous, vous avez cru en Jésus-Christ. Vous croyez en son salut. Vous avez entendu son appel. Vous désirez dans votre, au fond de votre cœur y répondre. Alors que rien ne vous retienne. Allez, que vous ayez un conducteur devant vous, ou pas encore, faites ce que l'Esprit de Dieu met dans votre cœur. Cherchez la connaissance de la parole de Dieu. Laissez cette parole aiguiser votre foi et votre zèle. Soumettez-vous à la conduite de l'Esprit et obéissez à votre Maître, votre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères, mes sœurs, j'ai envie de dire cela. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas attristés, ne perdez pas votre foi ni votre zèle parce que quelqu'un vous dit qu'il t'a commissionné, parce que quelqu'un est en train de vous dire qu'il t'a envoyé. Sois confiant que ton Seigneur Jésus t'a envoyé. Ton Seigneur Jésus t'a envoyé. Et franchement, tu n'as pas besoin d'autre envoi que ça. Bien sûr, je ne suis pas en train mon propos n'est pas de créer la zizanie dans une assemblée. Bien sûr, il y a une motion d'ordre dans toute chose. Si tu es au sein d'une œuvre, je ne sais pas, d'une cellule de maison, d'une assemblée, d'une église, d'une association, d'un groupe de chantres, n'importe quelle œuvre en Christ, il y a une motion d'ordre, je suis d'accord. Tu ne peux pas te lever comme ça et aller parler au nom de l'œuvre sans l'ordre ou l'autorisation des dirigeants de cette œuvre. Mais il faut vous dire une chose, aller parler au nom d'une œuvre, machin, n'est pas le message de l'envoi de Dieu. N'est pas ce aller annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ a donnée. Donc, si toi, tu te lèves en tant que toi, et en tant que chrétien, tu annonces la bonne nouvelle de Dieu à quiconque, au nom de Jésus-Christ, tu ne foules aucun ordre d'une quelconque assemblée. Tu réponds et tu obéis à l'ordre de ton Seigneur Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu es dans une œuvre ou dans une assemblée, oui. Si tu veux aller parler au nom de cette assemblée et te présenter en tant que membre de cette assemblée, tu dois avoir l'ordre des dirigeants de cette assemblée, des têtes de file de cette assemblée. C'est une question d'ordre. Mais rien ne t'empêche à être soumis à ton esprit. À être, que ton esprit soit soumis à l'esprit de Dieu en toi et écouter ce qu'il te dit. Rien ne t'empêche, au nom de ton Seigneur Jésus, directement, de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer et de faire, de poser un acte d'amour, d'assistance. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous demande de faire. On n'a pas besoin d'une autre autorisation que ça. Amen. Marc était sans doute parti d'avec eux de Jérusalem. Il a fait un bout de chemin avec eux et à Pamphylie, il les a laissés continuer seuls parce que lui prenait une autre route. Quel mal y a-t-il à ça? Certainement que Marc s'est trouvé à ce moment-là enrichi. Mais l'œuvre que Marc allait faire, est-ce qu'il disait « Je vous parle au nom de Paul et de Silas » Je ne pense pas. Il allait avec sa foi et il disait tout simplement « Je vous parle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous avez entendu de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu mourir à la croix pour nous. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il s'est ressuscité. Parce qu'il nous disait, il est ressuscité, parce qu'il nous disait qu'il allait ressusciter. C'est celui-là même que les apôtres ont vu. Et c'est celui-là même qui dit dans, dans sa parole qu'il sera ressuscité le troisième jour. Et qu'avec lui, nous avons la vie. Je vous annonce la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Donnez votre vie. Vous avez entendu parler de Jean le Baptiste qui appelait les gens à la repentance et au baptême de l'eau afin de pouvoir trouver le chemin du royaume des cieux qui est venu annoncer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous invite à vous repentir. Je vous invite à vous repentir et à solliciter le baptême d'eau. De croire en Jésus-Christ, de croire qu'il est le Fils de Dieu vivant. Et vous serez sauvés. Voilà ce que Marc avait pris un chemin pour faire. Et je suis persuadé qu'il l'a fait. Sinon, il n'aurait pas eu la grâce d'être l'un de ceux dont l'évangile figure dans la Bible, les livres saints que nous lisons, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un soit fortifié. La moisson, la parole de Dieu nous dit que la moisson de notre Père est grande. Mais il manque les ouvriers. Soyons un ouvrier, un moissonneur pour ce grand champ de notre Père en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Amen, amen, amen. Un deuxième aspect que je veux souligner là, c'est seulement que, oui, dans la première partie, j'ai dit, voilà une dissension qui a pu diviser les gens, que l'Esprit de Dieu avait expressément signalé à l'Église de mettre ensemble pour son œuvre. Un dissentiment les a amenés à se séparer, au point où chacun a pris sa direction. Moi, j'ai deux petites remarques à faire en parlant du dissentiment. Je n'ai même pas de remarques, j'ai une prière. Ô Dieu de gloire, Papa. Ô Dieu de gloire. Saint-Esprit de Dieu, demeure au contrôle de ce que tu envoies. Demeure profondément au contrôle de ce que tu envoies. Je crois même que ce n'est pas ma prière qui va faire quelque chose. Parce que toi, quand tu désignes, quand tu choisis, tu demeures au contrôle. Veille à ce que les égos propres, à ce que les ressentiments propres, vraiment, n'influe point ou ne influe peu sur le plan divin. Alléluia. C'est appuyé de ça que je suis persuadée que Dieu, agissant d'une façon, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, a estimé à ce moment-là, comme il a fait à la tour de Babel, que le temps était venu pour Paul et pour Silas de faire chemin séparé, de s'allier des jeunes et de faire semaine séparée pour élargir son champ d'œuvre. Amen. Je reste persuadée de ça. Pour élargir son champ d'œuvre. Parce que souvent, on reste à coquiner, à glouquiner comme ça. On grossit, on reste au même endroit. Mais non, le monde est grand, il est large. Il faut éclater. Il faut aller dans les directions différentes. Parce que Paul et Barnabas, en même temps, Silas et Marc, avec eux, tous aujourd'hui à Cilicie, demain à, je sais pas, ils sont partis de quel côté? Ils sont partis, Barnabas est parti vers Chypre et Paul et Silas sont partis vers la Syrie et la Cilicie. S'ils étaient tous partis ensemble, d'abord la Syrie. Après la Cilicie, après, bon, on va à Chypre, oui, après, on va à tel endroit. Vu le temps que prenaient même rien que les voyages, ça retarde même le plan de j'allais dire, le plan d'envahissement de Dieu le Père. Et ça rétrécit la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas qu'il y a. Je ne me souviens pas du verset ou du chapitre, mais il y a quelque part dans la Bible où j'ai lu que Dieu attend que son champ soit complètement moissonné, que attend la moisson, que tout soit aient été convertis, sauf le fils de la rébellion, pour qu'ils reviennent. Ah, vous entendez? Donc tout ce qui retarde son champ, tout ce qui retarde sa moisson, ne va pas très bien dans le plan de Dieu. Hein? Donc la séparation de Paul et de Barnabas, moi je suis persuadée que c'était toujours un plan de Dieu et que l'ennemi n'a rien à voir là-dessus. Il est trop petit, surtout pour des têtes comme Paul et Silas, qui sont conscients lorsque l'esprit malin veut les troubler. Arrière de moi, dégage. Mais seulement s'ils sont restés sur ce dissentiment, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'a voulu. C'est parce que c'était la volonté de Dieu. Afin qu'ils aient des chemins différents pour élargir les champs. Alléluia. Pour gagner du temps. Pour l'expansion du royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit de me conduire ce matin dans cette méditation que tu m'as amené à enregistrer pour placer sur le site www.héritageduroyaume.com afin que cette méditation puisse édifier d'autres de mes frères et sœurs dans leur mission, dans leur foi, dans leur appel au nom de Jésus, dans leur action et dans leur activité. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Parce que nous ne pouvons rien faire sans ton aide, ô Esprit de Dieu vivant. Merci, merci, merci de nous éclairer avec ce qu'ont traversé et vécu nos prédécesseurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton saint nom. Amen, 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 amen. Glory, 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 glory. Karabaka koshtantentese. Kurabalabashanta onemia debes. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un verset qui dit « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle » en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait été rejeté par le Sanhédrin, les pharisiens et les autres, les bâtisseurs de l'époque. Chacun de nous aussi, en Jésus-Christ, nous sommes une pierre angulaire pour une bâtisse quelque part. Alléluia. Donc ne nous laissons pas intimider. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu vivant. Priez chaque jour en demandant, Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi. Je te soumets toute ma volonté. Prends contrôle et conduis-moi sincèrement dans les droites lignes de Père. Fais-moi demeurer dans l'agréabilité de l'éternel Dieu, mon Père. Et aligne tout ce que je fais avec le trône divin et le plan divin, les desseins de Dieu. Alléluia, car telle est ma destinée. Amen, amen, amen. Jésus-Christ envoie le Saint-Esprit afin qu'il joue ce rôle auprès de vous. Soyez-en conscients. Alléluia. Ne laissez pas vos émotions, vos égos, vos êtres, vos doutes vous empêcher, vous limiter dans votre zèle pour l'évangile de Christ. Amen. Enrichissez-vous. Ne cessez pas de vous enrichir. Cherchez la nourriture. Oui, dans la vie courante, ne mangez pas dans le même restaurant. Changez de restaurant, ne mangez pas la même qualité de nourriture. Variez les nourritures, apprenez à manger, je ne sais pas moi, européen, africain, asiatique, américain, indien, latino, apprenez à manger des choses diverses. Vous avez apprécié certains, moins d'autres, vous allez ajuster certains. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et nourrissez-vous. Soyez enrichis de la parole. Et laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Chaque jour. Amen. Glory, 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 glory. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous encore ce matin. Passez une belle journée. Passez une belle journée. Passez une journée de grande productivité, de grâce, de faveur exceptionnelle. Passez une journée de déversement de l'amour de Dieu. Une journée qui va glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Et que tout ce que vous faites soit pour la gloire de notre Seigneur. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je scelle ce message dans le sang de l'agneau immolé sans tache. Et je déclare au nom puissant de Jésus que tous ceux qui l'entendront, que tous ceux qui auront besoin de l'onction qui est dégagée, de la vie qui est dégagée dans ce message, au nom puissant de Jésus, pourront l'écouter. Le Saint-Esprit te conduira, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, pour qu'ils aient accès au niveau du site, des sites ou de YouTube de ce message, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, qui va les enrichir et les consolider dans leur œuvre ministérielle et dans leur zèle pour ton évangile. Au nom puissant de Jésus, gloire, gloire te soit donnée. Mes bien-aimés, demeurez bénis en notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.